Contes indiens, texte traduit et adapté par Stéphane Mallarmé. Nala et Damayanti. Damayanti, entourée de compagnes nombreuses, folâtrait dans les jardins du sérail. Un printemps, les arbres renouvelant une parure de vert tendre ou émeraude et le gazon de fleurs. Tout à coup, la princesse aperçoit une volée d'oiseaux s'abattant sur le bosquet en lignes serrées jusqu'à obscurcir l'air. Agréable jeu, elle pense, que donner la chasse à tant de plumes et de courir les belles rieuses toutes. C'est un autre blanc tourbillon. Femmes et cygnes ici confondus, des cols se courbent ou s'enlacent, rivalisent. Mais aux malins oiseaux, l'art de coquettement se dérober et fatiguer leurs charmantes adversaires. Damayanti se montre la plus ardente à cette course folle. Le cygne poursuivi s'arrête et, liant l'épaule ronde de la jeune fille, lui murmure « Princesse, un roi respire, le plus beau des hommes, parce que tu es la merveille des femmes. Nala, maître du Nishada, seul époux digne de toi. » Le cygne secouant sa neige disparaît. La Vierge reste frappée au cœur. Elle ignore que, loin de là, passant sur un bois, il jette ce cri à quelqu'un, pensif à l'intérieur. « Je te suppliais, grand roi, d'épargner ma vie et de me rendre à l'espace. » Tu le fis, et selon ma promesse, je parlais à Damayanti de façon qu'elle n'aime jamais autre que toi. Le roi qui, sous prétexte de chasser, enfonçait son amour au sombre des feuillages, posa à terre l'arc et les javelots inutiles. D'un homme épris ainsi, le gibier n'a rien à craindre. Oies, faisans, gazelles couraient impunément sous ses yeux. Il songeait à la fille chérie du vaillant Bhima, roi des Vidarbins, la fastueusement et légendairement belle Damayanti. Au même instant, elle, le délice, dont se baissaient les longs yeux toujours quand on exaltait le fils inconnu du roi de Nishada, lui vouait particulièrement sa rêverie. Impossible de plus longtemps se le dissimuler. Elle l'aime, ce héros, dont la renommée chante la louange. Une langueur altère les contours harmonieux du jeune corps, le visage décoloré, et ses yeux, seuls, au lieu d'elle, vivent, obscurcis et grandis. Ni sommeil, ni rire, et, autant que le médecin, les compagnes de l'enfant restent incapables de distraire son mal. Le vieux monarque, mieux conseillé par la tendresse paternelle, se souvient que la princesse a 15 ans et que c'est temps de la marier. Il fait proclamer, d'accord avec les ministres, à son de cloche, le Swayambhara de sa fille bien-aimée. Grand émoi au ciel et sur la terre, parmi les dieux et les rois. Quiconque a le droit d'aspirer à la main de Damayanti se dirige vers la capitale du Vidarbha. Nala n'est pas le dernier à se mettre en route. 4 dieux le considèrent sur son char, tiré par des éléphants enguirlandés, et sont extasiés à la beauté de ce mortel. Ils fondent de la voûte céleste et l'arrêtent au passage. Nishada, tu nous fus dévoué toujours. Nous avons besoin de tes services. Sois maintenant notre ambassadeur dans une affaire importante. Quoi ? Je le ferai, répond sans hésiter le pieux amant. Si tes yeux peuvent supporter l'éclat de cette gloire, tu vois Indra, Agni, Varuna et Yama qui aspirent à la main de la très belle Damayanti, court la prévenir, de sorte qu'elles choisissent l'un de nous. Immortel, qu'exigez-vous de moi? Puis-je plaider votre cause, moi qui viens ici dans un but pas autre que vous? Un homme peut-il disposer de telle influence sur la femme qu'il aime éperdument? Ma langue restera muette en la présence de celle qui enchaîne aussi mon âme. Tu l'as promis, tu ne peux te dédire. De grâce, Seigneur Indra, une seule observation. Comment pénétrerai-je chez la princesse? Souvenez-vous, les appartements des femmes sont gardés de près et terribles les ordres du roi. Cela t'arrête, mortel timide? Indra saura t'introduire dans le gynécée. Par la puissance du dieu, Nala se trouva transportée à l'instant parmi les glaces du sérail, vertigineux, ébloui. Repos, éventails agités par les femmes de Damayanti autour d'elle, les lampes éteintes, la fraîcheur du soir inonde librement chaque ouverture. Légère comme les nuées flottant après une pluie d'automne, la Vierge royale ondule sur l'argent et la soie d'un duvet de cygne. On croirait la blancheur semée par l'envol du cher messager dont la confidence la trouble encore. La lune infiltrait ses rayons dans l'ombre dénouée d'une chevelure incomparable et jusqu'à ses prunelles cachées sous les points vacillants de cils noirs. Les yeux s'y ferment. Au milieu de cette tête pâlie, ils évoquent un lotus avec une abeille double endormie dans sa corolle. Seuls brillent des lèvres avec un feu de rubis. Sur leur chaste grenade, la bouche d'un vainqueur n'a jamais désaltéré sa soif. Plutôt le bouton du champaka avant de devenir vermeil, le contour clair des joues. Quelques gouttes de sueur, un génu collier, perlent aux bras, aux épaules, aux seins que soulève l'avenir. Le héros tressaillit des secrets de cette beauté surprise, quoique inviolée. Fleur irrespirée encore, fruit au goût de mystère. Nala devait-il renoncer à te posséder, en s'exprimant devant toi, pour d'autres que pour lui? Un cri jeté par les femmes du sérail devant un homme, les lampes précipitamment rallumées, la colère s'évanouit à l'aspect de Nala. Est-ce un homme, présumait-elle, plutôt un Gandharva, un Yaksha? La bienséance seule contint la rumeur de leur admiration. Damayanti ouvre les yeux et regarde celui qu'elle n'avait encore vu qu'en rêve, debout, toute rougissante. Parle vite, qui es-tu? Sur l'aile d'un génie ou sinon comment vins-tu? Pardonne ma hardiesse, reine. Je suis envoyée près de toi par les dieux et grâce à eux, j'ai pu arriver jusqu'ici sans être vue. Indra, Agni, Varuna et Yama aspirent tous quatre à ta main et te pressent de choisir. Nala, épuisée par l'effort, il y a des missions pénibles à remplir. Un sourire candide s'épanouit sur le visage de Damayanti. « Je respecte et j'adore les dieux, dit-elle, mais je t'ai, toi seul, choisi pour époux. » Ma richesse ou moi, la plus grande que j'ai, en toute confiance, Seigneur, je te la donne. Prends. Ne l'as-tu pas deviné? L'amour me consume, et je n'ai fait convoquer l'assemblée des rois dans un espoir autre que devenir ta femme. Le héros se sent faiblir devant cette ingénue et franche tendresse. Mais fidèle au devoir et à la fois juré, comment préférer un homme quand les immortels t'adressent leurs vœux? Tu les dédaignerais pour celui qui n'égale la poussière de leurs pieds? Agni, le souverain des êtres qui doit un jour consumer la terre, Yama qui retient les hommes dans le devoir, selon la crainte des châtiments. Varuna, le seigneur des eaux. Indra, maître du tonnerre, roi des dieux, fléau des Danava. Tu les refuserais? Je t'aime, Nala. À mes yeux, tu es plus grand que tous. Repousse-moi. Je chercherai dans le poison, le feu ou le fleuve, le seul oubli de ma douleur. Ah, mon amour vaut le tien. Si je me consumais nuit et jour avant de te connaître, qu'est-ce à présent, ô fille non pareille? Mais ne négligeons que je suis venue ici défendre les intérêts des autres, pas les miens. Si je trahis les dieux, ne crains-tu, ô bien-aimé, sur nous la vengeance de ces êtres puissants qui donnent la mort? Un jet de larmes s'échappa des yeux de Damayanti. Ressource suprême chez la femme quand elle n'a rien à répondre devant un argument terrible. Il te tourmenterait, c'est vrai. Mais, relevant la tête où le vouloir illuminait de grands yeux, j'ai trouvé un moyen qui concilie tout. Présente-toi demain à mon Swamayambhara devant tous. Je te choisis pour mon époux. Les dieux ne te reprocheront rien. Leur dépit, s'ils en éprouvent, ou la colère, retombera sur l'unique coupable. Adieu, noble guerrier. Sors au plus vite du sérail, où l'on pourrait te surprendre. Nala obéit, mais sur le seuil de l'appartement, il se retourne. Penchée hors de sa couche, la Vierge le suivait d'un regard passionné, qui semblait dire « Je t'envoie mon cœur, qu'il ne me revienne plus ». La splendeur d'un empire se prodiguait aux cérémonies du Swayambhara. Les rois, à l'heure dite, se pressaient sous l'arcade extérieure à un colossal amphithéâtre. Soutenu de colonnes d'or, une estrade porta tous les prétendants. Ava, planant sur la foule, leurs robustes bras noueux comme des massues, des coiffures bouclées, d'arqués sourcils, les pendants d'oreilles alourdis de pierreries, moins que les yeux étincelants, on eût rêvé de grands lions parés se rassemblant sur la montagne. Damayanti se montra, la dernière, suivie de deux files de 100 femmes, l'une formant son cortège habituel, toutes avec des diaprés parasols ou des écharpes versicolores en signe de joie, levées comme pour une danse. Une fureur d'admiration surgit devant la princesse, plus miraculeuse que jamais. Aucun prétendant qui, à ce moment, osa faire un vœu pour son compte. Chacun s'oubliait. Il fallut la proclamation magnifiée par les trompettes du nom de ses rois pour qu'isolément, il vint se défiler au pied de la précieuse enfant. Ici, se produisit un incident étrange. Les dieux, usant de ruse, prirent tous quatre la forme de Nala, et cinq figures, la même, passèrent au regard que préparait la jeune fille. Angoisse, et comment s'y reconnaître? Damayanti, en cette occasion, adressa au dieu un appel entendu, qui, d'une âme si pure et d'un si fervent élan, les toucha. Voici qu'aussitôt elle les distingue avec les caractères qui leur sont propres. Exempt de poussière et de sueur, le regard immobile et le corps ne touchant pas terre. Lui, Nala, avec ses deux pieds au sol, son ombre sur le sable allongé, clignait des yeux, le front humide de transpiration et ses couronnes flétries. La charmante marcha vers le héros, et, d'un gracieux embarras, lui jeta une guirlande autour du cou. Ainsi se déclara le choix de la Vierge royale aux applaudissements répercutés de la foule vaste et lointaine saluant le vainqueur, tandis que les dieux, confus, partirent en riant ironiquement. Noces immédiates magnifique. On célébra le sacrifice du cheval. Toutes les offrandes d'usage exhalèrent leur parfum aux divinités. Malgré que, dans le fond de l'âme, le vieux Bhima regretta de n'être pas le beau-père d'un des quatre habitants du ciel. Le roi du Nishada emmena sa jeune épouse dans les jardins de son royaume. Le couple oubliant, au bord des bassins et dans le labyrinthe fleuri, les obstacles dont il avait triomphé. Et deux roses, qui ne s'effeuillaient, étaient la bouche de l'un et de l'autre, partout se cherchant avec félicité. Un fils, une fille, naquirent, gage prompt de leur amour. Tout bonheur ne fait qu'écarter peu de jours l'angoisse. Il ne la détruit pas. Un génie malfaisant nommé Kali, lui aussi, soupirait pour la princesse. Il jura de se venger. La cuirasse de vertu enveloppant Nala cache un défaut. Le roi est joueur, passionnément. À tout coup, son royaume, les cités, les sujets, engagés sur un coup de dé. Il accepte une partie que propose son frère Pushkara. Kali s'insinue en lui, l'envahit et commande. La chance tourne contre le roi, souriant et presque indifférent d'abord. Son or brut ou monnayé, ses chars, ses attelages radieux, tout, jusqu'à ses bijoux et des vêtements, il les perd successivement. Les dés, en retombant, marquent par un désespoir strident leur inimitié envers Nala. Son désespoir les lance dans l'espace comme on montre le poing. Toujours ils le trahissent. Le joueur s'obstine, tremble, chancelle, fiévreux de ne manger 3 jours, et le coin des paupières brûlé par l'insomnie. Crie des ministres du peuple qui veulent pénétrer chez le souverain et l'arracher à la lutte insensée. Tous forcent les portes, figés au seuil, devant le roi qui n'a plus à perdre que son royaume. Damayanti paraît. Le malheureux, dans son délire, n'entend ni les remontrances de ses conseillers, ni la supplication de celle qui pouvait tout sur son cœur. Ses yeux hagards, dardant les dés, il les invoque, les menace, et tant qu'un enjeu restera, sa main crispée agite la ruine. Avec fascination, l'épouse, la foule, les dieux eux-mêmes, du haut du ciel, suivent muets l'acte impie. Les suprêmes dés rejaillissent avec une joie sinistre. C'en est fait. Le glorieux royaume n'appartient plus à Nala. Pushkara ricane à la victime. Continuons. Je t'ai gagné tout, excepté Damayanti. Or, si tu m'en crois, fais en jeu avec Damayanti. Profanation, devant quoi recula le démon qui trouble Nala. L'infortuné, sans répondre, arrache ses parures, les jette dédaigneusement aux pieds de son adversaire, s'enfuit. Damayanti reste à la porte du palais, attendant son mari, ses 2 enfants conduits à leur aïeul. Abandonné de tous, à mort menace Pushkara, quiconque accompagnera le couple royal. Nala et Damayanti quittent la ville où ils ont régné. Ils marchent au hasard d'un sentier de forêt. « Oh, dé !» hurle l'impuissant comme la rage le serre au cœur. Noir combattant qui ne cédait à l'objurgation ni aux prières. Les rois, si vous les possédez, devant vous courbent la tête. Vous me brûlez, charbon céleste, de désir encore et de regret. Vous m'avez tout pris. Je vous maudis. Ô dé impitoyable! Toi, femme innocente, porteras-tu le poids de mes fautes? Voici devant nous la route du sud. Là-bas, derrière les monts Vindhya et la rivière Payokni, est le royaume natal de Vidarbha. Désormais, Tu dois y vivre auprès de tes parents. Viens avec moi, cher époux. Mon père sera heureux de cette hospitalité et de réparer les torts de la fortune à ton égard. Y songes-tu, reparaître en mendiant où j'ai brillé, roi, implorer la pitié de ton père, moi qui me crois encore son égal? Alors je ne te quitte pas. Monarque, je t'aimais. Je t'aime davantage, pauvre et dénué. Nous serons riches encore s'il reste à Nala mon bras pour le soutenir, mon sein pour qu'il y repose sa tête, et ma voix et mes yeux où goûter l'oubli de ses chagrins. Ô Damayanti, les dieux ont pétri de ciel la femme dont le dévouement console l'homme affligé, et je ne me plaindrai plus du sort, ma bien-aimée. Une cabane. Déserte, elle se présenta sur la route au couple exténué par 4 jours de marche et de faim. Son toit leur accorde du moins le sommeil sous les roseaux. Nala les heurte du front. Il ne dort pas. Kali, le mauvais esprit, le hante de pensées d'orgueil. Sur la terre, sans natte et sans couverture, voilà donc couchée celle qui ne posait ses sandales que sur des tapis de fourrure et de plumetis. Sa chevelure est coule, souillée, et découvre un visage ignorant la poussière jusqu'ici que de l'aile des papillons la frôlant au détour. Le droit l'a-t-il, Nala, de vouer à tant de privations la princesse méconnaissable qui, rieuse et illustre, l'a choisie entre tous? Vivre ainsi déchu, lui, auprès de la femme aimée? Quelle humiliation! Mieux mourir! Le spectre de soi, il va et vient entre les murs chétifs, en proie à l'assaut d'une lutte. Qu'il parte, Damayanti retrouvera peut-être un destin meilleur. Mais seul, laissé dans les jungles, à la dent des tigres et des serpents, la confiante qui s'endormit sous sa protection, aura-t-il ce triste courage? 20 fois l'entraîne Kali, mais la pitié le reprend. Le démon vint. Nala jette un regard obscurci de larmes sur celle qu'il abandonne. Femme très chérie, n'ose-t-il proférer que les dieux t'environnent de leur protection? Puisses-tu, loin de Nala, connaître le bonheur qu'il ne sut te donner? Éperdu cette fois et sans plus retourner la tête, Damayanti s'éveille souriante au soleil qui pénètre. Ses yeux cherchent le roi. Doucement, elle l'appelle, puis avec des cris que le cruel écho renvoie. Ô solitude! Quoi? Est-ce possible? Nala, tu n'as pas profité de mon sommeil pour me délaisser comme l'éléphant s'accompagne au silence de la forêt? T'ai-je offensé, mon seigneur? Non. Me suis-je plainte? Jamais. À ta suite, mes pieds se déchiraient aux ronces. Tes souffrances, la faim, ne les ai-je conjurées avec ma caresse? Je suis folle de m'inquiéter. Tu n'es pas partie. Tu épies ma douleur, cachée dans un buisson. M'entends pleurer et ne viens pas me consoler, ingrat. Le jeu méchant, cesse-le au plus vite. L'antilope bondit qui veut rejoindre son troupeau. Elle en esprit de même, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus douter de l'affreuse vérité. Hélas, s'agenouillant, coupable il ne l'est pas, mais à plaindre plus que moi. Et que deviendra-t-il privé de sa compagne? Immolation sublime du véritable amour, elle-même s'oublie et cherche des excuses à qui la précipita dans le malheur. Une liane prodigieuse se balance, mue d'aucun vent, et dans le calice qu'elle laisse pendre gémé d'une sombre pierrerie, Damayanti n'a pas reconnu le boa, qui, gueule ouverte et regard étincelant, va la mordre. À ses cris, accourt un chasseur de gazelles, une flèche, le reptile se déroule, mort. La princesse, sortie d'un évanouissement, dirige à travers son effroi des mots fervents vers son libérateur, comme par les déchirures de sa robe, sourit et remercie la blancheur de sa chair suave. Un danger menace, pire. Elle le pressent à l'œil ardent du chasseur, qui ne quitte pas ses charmes. Bras ouverts approche l'homme, mais elle, douée d'une autorité inconnue, lance à peine un geste que l'audacieux roule de son long à terre, comme un arbre étendu par la foudre. Les dieux étaient venus en aide à leur protégé. Reprendre sa course, voir des tigres dont la gueule sinistre et rose lui paraît innocente à côté des baisers d'un violateur, ou, dans sa course, rencontrer des troupeaux de buffles et d'éléphants, ouïr le rugissement et le miaulement des lions, des panthères et des léopards. Terreur moindre pour elle que l'apparition des sauvages et des rakshas, surtout aux formes hideuses. Fuyant les humains, elle gravit des roches, s'égare dans les grottes, entend se perdre des torrents et bouillonner des cascades, traverse des marais, côtoie les étangs, des lacs, des rivières, tout, et meurtrir ses membres aux branches enchevêtrées des arjunas, jambousiers et bambous à mille épines, plutôt que le face-à-face avec qui n'est pas son époux. Elle le redemande, tantôt à l'arbre Asoka qui conjure le chagrin, tantôt au mont Vindhya, porte-étendard de la forêt, dont les 100 pics divisent et soutiennent les nuages ainsi que d'orageuses étoffes. La voici qui approche d'un ermitage. Des anachorètes sereins y vivent dans la contemplation divine. Son histoire et cette prière, eux les pieux voyants de l'avenir, en raison de leur austérité, qu'ils consentent à lui dire si elle reverra Nala. Sinon, plus rien pour elle à démêler avec la vie. Tu reverras Nala, répond le cœur des ermites. Puis, les feux consacrés, les cabanes et jusqu'à la rivière qui coulait à travers la prairie, tout disparaît. Un mirage qui s'évanouit ou son rêve. La fugitive se retrouve seule dans la forêt. Elle suit une caravane, l'œil égaré, pâle et amaigri. Le reste de son vêtement en lambeaux, comme sa chevelure, souillée de poussière. Errant sans trêve, elle avise la troupe des voyageurs en quête d'un guet pour traverser le fleuve. Son déplorable aspect met en fuite plusieurs. Plus perspicace, le chef devine en cette mendiante une femme d'un rang élevé. Es-tu la déesse de ces bois ou l'épouse du fleuve? Mais, homme vénérable, dis si tu vis marcher un guerrier, aussi majestueux que le lion qui secoue sa crinière. Je te le nomme Nala, roi, mon époux, et le cherche, nuit et jour. Le chef de la troupe n'a rencontré que les fauves naturels à la forêt. La caravane, du reste, en route depuis longtemps, atteint le terme de sa course. Chedi, capitale des états du roi Subahu, dont elle est proche. Damayanti se joint aux voyageurs. Un lac parfumé de lotus. On y campe le soir, parmi l'abondance de toutes choses bonnes à la vie. Bois à se chauffer, source à se désaltérer. Le bétail paissait de grasses prairies, des femmes cueillant les fruits, des hommes visant le gibier. Soudain, la caravane endormie après le repas, un roulement de bruit et de heurts dans l'espace qui n'est pas l'orage, ni les blocs déchirés d'une montagne s'écroulant du sommet à la base. Apparaît un troupeau d'éléphants sauvages en chemin pour boire dans le lac. Il a, de loin, humé la présence de frères captifs, et sur eux se précipite, ivre de fureur et d'amour. Hommes, tous, et femmes, leurs enfants à la mamelle, de fuir, engourdis, hagards, donnant du front dans les arbres ou précipités en des trous. Les chameaux affolés choquent leurs sacs de marchandises éventrées qui font pleuvoir les diamants. Le feu qui vient de prendre achève le tumulte. La trompe eau dardée pour la soustraire aux flammes, fous, brûlés ou noircis, les éléphants de leur défense, de leurs pieds, lacèrent et broient les hommes, les bêtes, les richesses, piétinent l'or et le sang. Tous annonçaient bien, d'où ce désastre, parlèrent en se comptant les quelques survivants. Certainement, cette grande femme à l'œil égaré nous a jeté un sort. Une Rakshasi, il faut la tuer à coups de pierre. Ils ont raison, crie Damayanti cachée derrière un arbre. Et, entendant ces menaces, elle se sauve comme se fuyant elle-même. Je porte malheur à qui m'approche. Ma faute, laquelle pour être en butte à tant de maux? Subirai-je la vengeance des dieux que j'ai refusé de choisir pour épouser Nala? La fugitive arrive seule dans la ville de Tchédi. Les habitants prennent le frais sur les places publiques. Ils considèrent avec étonnement cette femme moins qu'en haillons, marchant comme une insensée. Les enfants la poursuivent et la huent. De la terrasse, rosie au dernier feu du ciel, la mère du roi qui a vu le cruel divertissement envoie à l'étrangère sa nourrice. On l'introduit dans le palais. Ô toi, Dieu aussi grand que d'une déesse, tu brilles sous ses loques comme l'éclair dans un nuage. Dis-moi, n'es-tu pas une immortelle? Instruite par l'expérience, Damayanti juge prudent de dissimuler sa haute naissance. Mais, grande reine, je suis une humble ouvrière qui erre dans la forêt, nourrie de fruits sauvages et reposant sa tête où la nuit vient la surprendre. Voici des mois, j'avais un mari, tendrement aimé, mais possédé aussi par la passion du jeu. Il perdit tout notre avoir et s'enfuit pour cacher sa confusion. Dès lors, je cessai de prendre un jour de repos et cours la terre pour ressaisir celui qui m'a laissé. Sèche tes larmes, tout attendrie et embrassant Damayanti. Ma fille Sunanda a ton âge, tu seras sa compagne. Reste avec nous, ne désespère pas. On enverra partout des messagers pour découvrir la retraite de cet époux. La jeune femme accepte avec empressement une offre inespérée. Un jour, elle aide sa nouvelle amie et la mère excellente de celle-ci à recevoir, avec le respect dû, un brahman entré comme par hasard dans la ville de Tchédi. Le vieillard considère presque avec importunité un signe rouge qui fleurit entre les deux sourcils sur le front pâle de la jeune suivante. Damayanti, profère-t-il, et le trait de pourpre se dissipe en un incarnat léger sur le visage entier qu'elle veut cacher de ses mains. Aussitôt, princesse, n'ayez peur. Le roi Bhima promit une récompense de 1000 vaches à qui retrouverait son gendre et sa fille. Plusieurs d'entre nous partirent. Je suis l'heureux qui vous ramènerait, vous au moins, chez les Vidarbin. La reine, c'était un pressentiment, exhale-t-elle, serrant la jeune femme contre sa poitrine. Ta mère, ma sœur, est comme moi, fille du roi Sudaman. Je te vis enfant dans le palais de mon père. Joie du départ, fête du retour, en vain. Rien ne distrait l'épouse qui pleure, seule, toutes ses larmes. si elle pouvait oublier Nala, les deux enfants vivant image du héros le lui rappelleraient sans cesse. Distraitement, elle écoute de nouveaux messagers qui s'en vont de tous côtés, visitant les palais, les cabanes, les ermitages. Un d'eux, pourtant, raconte qu'il s'est entretenu avec le cocher du roi Rituparna et que cet homme a paru s'émouvoir au nom de Nala. Retourne dans la ville d'Ayodhya précipitamment à ce courrier et, rattaché avec violence à un si faible indice, annonce qu'aura lieu bientôt un nouveau Swayambhara pour la princesse Damayanti qui, ne sachant si Nala vit encore, veut choisir un époux. Le Brahman obéit. À la nouvelle, Rituparna fait appeler son chef d'écurie et demande s'il peut le conduire en 24 heures chez les Vidarbins. Le roi aspire à la main de la princesse et n'en fait pas mystère à Vahuka. « Nala, Nala !» crie au cocher, une voix pareille à celle qu'il appela dans la forêt embrasée. Mais il doit rester sourd à ce nom. Il se souvient de son engagement quand le serpent bleu tiré par lui de l'incendie le fit changer de forme, altérant en membres difformes et grêles ses fiers bras et sa vaste poitrine pour un résultat béni, et disant « Apprends que je suis roi comme toi, celui des serpents, comme toi puni. J'ai manqué d'égard envers l'ascète Narada » et m'immobiliserai jusqu'à l'heure où tu me délivres. Ma reconnaissance te dévoilera le moyen de chasser le démon qui t'afflige. Rends-toi à la ville d'Ayodhya, auprès du roi Rituparna. Présente-toi à lui, comme habile dans l'art de conduire les chevaux, t'insinuant dans les bonnes grâces du souverain. En échange de tes services, il t'enseignera la science des dés, qui, pour son esprit, n'a pas de secret. Regagne à l'indigne Pushkara ton royaume. Tiens, et voici, pour reprendre ta beauté natale, un couple d'habits célestes que tu n'auras qu'à vêtir. Maintenant, il s'efforce de cacher son angoisse et refoule en lui cette pensée. Misérable que je suis! Le chagrin a-t-il égaré l'esprit de ma bien-aimée? Un moyen qu'elle emploie de me ramener à elle? Ou bien est-ce tant la nature des femmes contient d'inconstance qu'elle veut chercher, en d'autres liens, le bonheur que je lui ravis? Profitons du désir de Rituparna. Allons dans la capitale du Vidarbha. J'y saurai démêler la vérité. Il ne songe même pas à éprouver de la joie que la bien-aimée survive et que son corps délicat ait défié les dents féroces. Vite, il entre à l'écurie, choisit 4 chevaux de race nés sur le bord de l'Indus, à la fois de neige et de feu. Il les attelle, doucement les flatte de la main, et, sitôt que Rituparna est monté dans le char, il les lance à travers l'espace. Les blancs coursiers s'ajoutent pour elle la cime immaculée des monts, plane sur les forêts à la façon d'oiseaux. Le roi, stupéfait, se demande si la chétive enveloppe de Vahuka ne cache pas Matali, le cocher d'Indra. Arrêt le soir, comme pour laisser souffler les bêtes, et Rituparna, cessant de se confondre avec le soleil sur les hauteurs éthérées, examine pour prendre patience un arbre de l'espèce Vibhitaka. « Mon ami, dit-il à son cocher, sache-le, personne n'est plus grand calculateur que ton maître. Tu vois ces branches aux fruits innombrables comme les étoiles? Je te dis, sans hésiter, qu'il cache sous sa feuillée 2100 fruits moins 5. Seigneur, permets-moi d'arracher ces arbres pour les compter à l'aise. Qu'Indra me protège, c'est merveilleux, le chiffre est juste. Pas un de plus, pas un de moins. Que dirais-tu si tu me voyais engager une partie de dés ? Rien ne résiste à mes combinaisons. Je sais déjouer la ruse des adversaires et gagner à coup sûr et sans peine. Grand roi, je t'en supplie, donne-moi la science des dés et en échange, je te donne celle des chevaux. Volontiers. Mais tu jures, si j'y consens, que demain, avant le crépuscule, nous sommes chez le roi Bhima. Par les 16 grands royaumes du Jambudvipa. La leçon commence, les lèvres attentifs. Le démon Kali se sent vaincu et prend le parti de quitter le corps de Nala. Sur son siège remonté, le faux cocher, vif et libre de la fièvre et de l'oppression, maintenant est sûr de regagner son royaume quand il voudra. Le char vole et le lendemain, à l'heure dite, entre dans la cour du palais avec des roulements de tonnerre. La foule accourt, enthousiasmée. Il n'est pas jusqu'au pan perché sur les tuiles incendiées par le soir qui imitent avec leur queue éblouissante chaque roue du char véloce, aux éléphants qui n'encensent de leur trompe le plafond doré des salles. Faites par mille chants célébrés, comme quand les nuées apportent la pluie. Damayanti, du fond de son appartement, discerne les clameurs. Elle tressaille. A-t-elle deviné l'approche du bien-aimé ? Nala, seule, savait ainsi faire courir un char. Lui remplit ses fonctions en conscience. Il vient de dételer les chevaux, les panse suivant la règle. Et la vigueur rendue aux nobles animaux songe à se faire un lit sur le siège, le véhicule remisé vibrant vers un hasteux hangar. La princesse souhaite connaître le motif qui amena les illustres voyageurs. Sa fidèle servante, Kessini, jamais embarrassée pour lier conversation, a dit ces mots soufflés par elle. Nala, en garde contre tous les pièges, répond indifféremment que le roi Rituparna est venu pour le Swayambhara de la fille de Bhima. Sans s'occuper de qui le regarde, avec une curiosité peu déguisée, il va prendre de l'eau dans les urnes pour laver les cieux, les roues et la caisse resplendissante. N'y a-t-il pas chez le roi, votre maître, elle ne se décourage pas, un cocher jadis au service de Nala et qui parut au fait de son sort? T'as trompé, jeune fille. Nala erre, inconnu sur la terre. Personne ne peut savoir où il se cache. Le brahman Sudeva, pourtant, est digne de foi. À l'en croire, cet homme conta que la princesse ne devait pas s'irriter, plutôt plaindre son mari d'être tombé dans une grande infortune. N'essaie pas de le nier. Cet homme, c'était toi, Vauka. Suis-moi et viens répéter à ma chère maîtresse le propos tenu devant le saint. L'attitude de Nala s'ébranle. Sa froideur fond et d'une voix mouillée de larmes. Soit, si je l'ai dit, je le répète. Abandonnée de son époux, une femme de haute naissance ne tombe pas à la colère. Les épreuves concourent au triomphe de sa vertu. Et Nala, tu parlais de lui, était assez frappée, sans trouver au fond du sort ce suprême poison que celle-là le trahit. Par lui, jadis, choisi devant le feu sacré, à la face des dieux. Kessini s'empresse de rapporter l'entretien à sa maîtresse. Le cœur de Damayanti flotte entre le doute et l'espérance. Tantôt, dit-elle, conduis mes deux enfants au cocher Vauka. Candide, profonde inspiration, au bras déjà tendu par le frère et la sœur, un cri spontané, déchirant, irrésistible, a jailli de Nala. confus de s'être laissé surprendre, il se tourne vers la confidente et, je t'en prie, laisse venir sur mes genoux ces enfants, trait pour trait ceux que je perdis. Il couvre de baisers leur tête, riant, pleurant, lui-même redevenu innocent, comme eux. Plus de doute, madame, Kessigny revient à sa maîtresse. L'aspect du cocher Vaouka voile le héros Nala. Si vous aviez entendu le cri par l'émotion arraché à ce père, ou vu les caresses qu'il prodigue à vos enfants, qu'il est à de certaines heures malaisé de feindre. Tandis que Vaouka, amené par ordre de la princesse, baisse la tête et garde le respect d'un subalterne mis en présence d'une haute dame, la fille de Bhima tâche de se composer un visage. Les deux époux s'examinent un instant douloureusement. Leur silence vaut toute parole. Si Damayanti écoutait son cœur, elle serait aux pieds de celui à qui elle a tant à pardonner. D'une voix qu'elle s'efforce de raffermir, « Vaouka, vis-tu jamais un homme connaissant le devoir, abandonner la nuit au milieu d'un désert, la mère de ses enfants, la dévouée épouse innocente par lui choisie entre toutes à la face des dieux ?» « Attends pour me juger, » s'écrie Nala, devant ses paroles oubliant son rôle. « Si j'ai perdu au dé mon royaume et te délaissais, sache qu'une malédiction m'accablait, possédée que je fus du méchant démon Kali. Mais toi, avec ton libre arbitre, toi, que rien n'aveuglait, tu as voulu briser nos liens. Tes envoyés dans l'or de leurs trompettes ont proclamé mon agonie, ou que Damayanti allait choisir un autre époux. Rituparna n'accourt-il pas ivre d'espérance, et demain l'Orient princier viendra, comme jadis disputer ta main. Ah, qu'il ne soit pas de Dieu dans le nombre. Femme vindicative, tu as bien châtié le malheureux qui n'a cessé de t'aimer. L'orgueil de Nala s'emporte sur l'ombre d'un soupçon. N'est-ce pas l'homme même de s'oublier coupable pour devenir accusateur? Mais dans cette injustice, Damayanti découvre la jalousie, signe encore d'amour. « Ah, dit-elle, tu es toujours celui que j'ai préféré aux dieux, ami. Ce soyambara qui t'irrite, je ne l'imaginais que pour te ramener. Tout à l'heure, si j'osais parler avec l'accent du reproche, je voulais qu'enfin tu te trahisses. Pardonne, une plainte, pour la première fois exhalée de ma lèvre. L'astre aux rayons ardents qui féconde la terre et l'astre à l'éclat froid qui filtre par la nuit les vents sans demeure au monde. Qu'il consume ma vie si jamais j'accomplis acte indigne de toi. Ô divinité, triple soutien du monde, je vous adjure. Levez-vous en témoin. Dites que seule la vérité coule de ma bouche ou désertez-moi sans retour. » Cet appel désespéré venait d'être jeté au ciel lorsqu'une voix proféra pour écho « Nala, ne conserve de soupçons à l'égard de Damayanti. Son trésor fut bien défendu. Nous avons été 3 ans, les témoins et les gardes de cette épouse fidèle. La fille de Bhima est digne de ton amour. Comme par le passé, unis-toi à elle, et même, si tu peux, aime-la davantage. » La voix divine fusait encore que chaque parole retomba en pluie de fleurs. Sur la pointe des pieds se dressait, bras entrouverts, pour la recevoir et y toucher, ô bonheur, avec des mains humaines. Le prodige pour les amants se fit que chacun perçut des calices véritables, pareils à ceux qui marquent les allées dans les parterres et surchargent les vases des palais. Pourquoi s'exprimer plus que ces lotus, ces roses, ces jasmins tu incueillis? Ne s'était-il pas tout dit? Ils trempèrent l'un et l'autre pour renouveler leur être en le silence lustral. Sous les guirlandes et le bouquet de lèvres suspendues comme un déodorant, où leurs baisers toujours, passés, futurs, perpétuels. Arrière, un autre bruit. Ce leur fut naturel de se retrouver, tellement que le lendemain, quand éclata l'allégresse de la nouvelle dans la cité, eux seuls, après une veillée d'extase, paraissaient se promenant par les rues, pour se montrer, ignorer le motif, n'alla restituer à sa splendeur première, selon la robe céleste don du naga. Damayanti, matinale, ou vierge comme se sent quiconque échappa à de grands malheurs. Rituparna, confus d'avoir traité en serviteur un grand monarque, offrit de subtiles leçons à Nala, qui devint passé maître dans l'art de lancer les dés. Un mois consacré au plaisir, le héros prit congé de Bhima et, suivi de Damayanti, alla demander une revanche à l'usurpateur Pushkara. La même partie, et pour lui la dernière, reconquit un royaume et gagna les richesses, aussi la vie de l'adversaire. Généreux, il n'abusa de la victoire et renvoya son mauvais frère comblé de cadeaux. La fortune sourit constamment à Nala, qui avait payé sa dette à l'adversité et expié le délice d'être préféré au dieu par Damayanti. Les hommes, dignes de le rester s'ils fuient la prospérité, ne s'abandonnent eux-mêmes et savent, un jour ou l'autre, triompher des destins contraires. Arrangé et récrit, par Stéphane Mallarmé.